Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette émission n'est pas en direct. Cette semaine, les ados ne pédalent plus et c'est un problème. Et il va falloir trouver des solutions et on va le faire, on va tenter de le faire avec Aurélie Schmitzmann. Mais avant, merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions. Merci à vous qui êtes fidèles au poste, mais fidèles au podcast. Comme une rengaine, c'en est pas vraiment une. On en a besoin de votre soutien financier, vraiment. 1 euro, 10 euros, 100 euros, on prend tout. Et oui, Cause Commune est une radio associative et donc une radio associative, elle fonctionne sur les dons et sur les subventions. Et les subventions, elles se font maigre. Promis, cet argent ne servira pas à m'acheter des rustines, mais à financer les frais de fonctionnement de l'association. Saviez-vous que diffuser sur la bande FM, eh ben, ça coûte une fortune. Revenons à nos ados qui ne pédalent pas ou plus. J'avais un débat il y a quelques jours sur la notion de pratique ou d'usage à propos du vélo. La pratique, c'est plutôt de l'ordre du loisir, du tourisme, du plaisir, du sport. La pratique est souvent associée au cyclisme, au sport, à la performance. Le vélo est ici utilisé comme un équipement sportif. Le vélo est donc en concurrence avec un ballon ou une tenue de running, par exemple. L'usage, c'est plutôt une notion utilitaire du vélo, le transport, les trajets contraints. Quand la pratique, c'est les trajets que l'on se fait parce qu'on en a envie, l'usage, c'est les trajets qu'il faut bien faire. L'un est futile, l'autre est utile. L'un est plaisir, l'autre est désagrément. Ou plutôt, grâce au vélo, l'art de rendre agréable un moment un peu chiant. Comme par exemple, aller au bureau ou aller chez belle-maman chercher un colis Vinted. C'est vrai que c'est chiant, sauf si on y va à vélo. Le concurrent du vélo utile, c'est les transports en commun ou la voiture. On est usager de l'espace public, des transports en commun. Le contexte de ce débat était dans le cadre d'un programme qui fait la promotion de l'usage du vélo au quotidien. De mon point de vue, tous les enfants qui découvrent le vélo le découvrent en tant que pratiquant. Dans un moment de loisir et de plaisir, faire des dérapages, aller et venir pour aller nulle part, sans autre objectif que pédaler et découvrir cette magie de l'équilibre et cette sensation de liberté. Je crois qu'en matière de vélo, on ne peut pas devenir usager sans être passé d'abord par la case pratiquant. Je crois qu'il y a une constante absolue avec le vélo. On en fait d'abord pour le plaisir et les sensations qu'il procure. Parfois, on passe de pratiquant à usager. Je crois que c'est impossible de commencer le vélo en étant usager. C'est probablement une spécificité du vélo par rapport à tous les autres modes de transport. Si on commence le vélo en étant pratiquant, pardon, alors la bonne façon de remettre des citoyens en selle, c'est de leur évoquer la pratique, le plaisir, les sensations, bien avant d'évoquer la destination, au hasard, le boulot. Sauf qu'aujourd'hui, avec Aurélie, on va apprendre que nos ados, ils ne pédalent pas ou ils ne pédalent plus. Dans sa thèse que nous allons survoler aujourd'hui, on apprend qu'en Suisse, ils sont 25% à ne pas posséder de vélo de 19 à 20, quand ils ont 19 ou 20 ans. Et combien sont-ils à ne pas posséder de smartphone? C'est une question, ça. Évidemment, je vais demander à Aurélie Schmitzmann, pardon, pourquoi ce sujet, pour sa thèse, sa méthodologie et puis les grandes leçons qu'elle en tire pour faire des préconisations politiques. Bonjour Aurélie Schmitzmann, merci infiniment de venir à notre micro de Rayon Libre aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Je vous en prie. Aurélie, votre thèse, elle a été accompagnée par Patrick Rera de l'Université de Lausanne qui était venu au micro ici il y a 2 ans. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de votre thèse, vous Aurélie, à quel âge êtes-vous passée de pratiquante à usagère? Ou comme vous le dites dans votre thèse, d'un usage récréatif du vélo à un usage utilitaire?
C'est une bonne question. Alors c'était très tôt. Moi j'ai toujours utilisé le vélo pour aller à l'école. Je pense à partir de 10 ans peut-être. Ouais. Et ensuite je l'ai abandonné à je pense 16 ans. Ouais. Pour commencer le lycée. Et j'ai pu le reprendre à peut-être 20 ans à l'université, quelque chose comme ça.
Et c'est intéressant. Alors, est-ce que vous êtes basé sur votre expérience à vous? Est-ce que vous souvenez pourquoi vous avez abandonné le vélo à 16 ans? Parce que c'était ringard, le vélo, quand on a 16 ans?
Non, c'était juste un problème de distance. J'avais une heure de transport public pour aller au lycée, donc à vélo... Autant dire que c'est impossible.
Donc c'était un vrai problème de logistique. Avant d'entrer sur la méthodologie puis vos grandes préconisations, j'aimerais quand même savoir pourquoi vous avez souhaité traiter ce sujet spécifiquement, les ados et le vélo.
Pourquoi le vélo? Donc on voit qu'il y a un recul de la pratique. Le vélo, pourtant, on sait qu'il peut répondre à d'énormes enjeux en termes d'émissions de CO2, de santé publique, d'enjeux de qualité de vie dans nos villes. Et On voit trois tendances chez les jeunes qui sont une diminution au cours des dernières décennies, une diminution au cours de la jeunesse avec des jeunes de 16-20 ans qui font nettement moins de vélo que les jeunes de 13-15 ans, si ouais. Je regarde les statistiques en Suisse, et puis aussi des différences en termes de contexte, dans des pays qui sont très cyclistes, d'autres pas du tout. En Suisse, on a des grands écarts entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, par exemple,
ouais.
Et puis aussi des différences en termes de genre. Donc c'est un petit peu tous ces différents tendances qui m'ont amené à me questionner sur le vélo et chez les jeunes, et aussi parce que c'est un public qui est très oublié à la fois dans la recherche et dans la planification urbaine, alors qu'en fait, c'est des usagers actuels, c'est des usagers futurs de nos espaces publics, et je pense que c'est très très important de pouvoir les attirer vers ces modes de déplacement qui vont permettre de répondre aux enjeux de la transition mobilitaire.
Mais pour bien comprendre, Aurélie, parce que c'est ce que vous dites, vous aviez des chiffres qui expliquaient, qui démontraient que les ados à 12-13 ans, ils pédalent et puis après ils arrêtent de pédaler, ou c'était une intuition, un sentiment que vous aviez ?
Non, on avait des statistiques à l'échelle suisse, déjà. Oui. Et puis, on en voit à un international aussi. C'est pas que en Suisse, on voit ces tendances avec cette diminution au cours de la jeunesse à l'international.
Et donc, vous êtes attaché à regarder ces chiffres, à essayer de comprendre pourquoi nos ados, ils pédalent moins et pourquoi dans certaines régions ou dans certains territoires de Suisse, ils pédalent plus que dans d'autres. Et typiquement, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi, par exemple, en Suisse alémanique, ils pédalent plus qu'en Suisse romande, par exemple? Vous avez une idée de ça?
Donc moi, dans ma thèse, j'ai pas eu l'opportunité de faire une comparaison entre ces deux régions. Je me suis vraiment intéressée à la Suisse romande,
oui.
Comprendre comment ces jeunes se déplaçaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Maintenant, pour expliquer de manière un petit peu plus générale ces différences de régions linguistiques, moi, ce que je remarque, c'est surtout des différences en termes d'aménagement de l'espace public.
Oui.
On remarque que dans les villes alémaniques, on a beaucoup plus d'aménagements cyclables. On a aussi plus de modération du trafic avec plus de zones 30, de zones oui. 20. Ou alors, ça sera pas la panacée non plus, mais c'est quand même déjà plus sécurisé de se déplacer à vélo. Pour tout le monde.
D'accord. Et c'est intéressant aussi dans votre étude, dans votre thèse, alors que j'ai pas lu, parcouru, mais j'ai lu le résumé, vous semblez mettre sur le même plan, je cite, trois types qui s'observent, les cyclistes occasionnels, récréatifs et utilitaires. Mais moi, quand je lis ça, j'ai l'impression les occasionnels, ils sont bien soit à un moment un usage récréatif ou utilitaire, même si c'est de temps en temps, non ?
Oui, oui, oui. Alors, les occasionnels, c'est vraiment des jeunes qui utilisent le vélo de temps en temps, un petit peu pour tout, en fait.
Ouais.
Donc, ils vont à la fois pouvoir se déplacer pour aller à l'école à vélo, à des activités, ou bien l'utiliser de manière récréative le week-end.
Ouais.
Et puis, d'un autre côté, on a des jeunes qui vont avoir un usage essentiellement récréatif,
ouais.
Qui n'utilisent vraiment pas pour les déplacements, ça ne leur parle pas vraiment. Et de l'autre côté, des jeunes que j'ai nommés utilitaires, et eux vont souvent ou de temps en temps se rendre à l'école ou à une activité à vélo, mais en parallèle, ils peuvent aussi avoir une pratique récréative.
Ouais. Et pour revenir à ce que vous me disiez juste avant, quand par exemple il y a une notion d'aménagement ou de voie de circulation apaisée, quand on est dans un territoire où les voies ne sont pas apaisées pour pouvoir circuler à vélo, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont mises en place, comme j'en sais rien, des transports en commun qui sont plus efficaces, ou finalement c'est une sorte de on n'apaise pas le territoire, enfin les voies de circulation, et en plus on ne surinvestit pas forcément sur les solutions de transport en commun, par exemple?
Non, alors je pense que c'est pas forcément lié l'un ou l'autre, c'est plus on sait que on a un système de transport public qui fonctionne très très bien,
ouais.
Et qui va plutôt faire concurrence au vélo.
Ouais.
C'est ce que j'ai observé chez les jeunes, surtout ceux qui allaient au lycée, qui est un petit peu plus loin, sur une colline, et du coup les transports publics fonctionnent, il y a un bus qui arrive pour le début des cours, qui repart à la fin des cours. Et donc, c'est vraiment un très, très fort concurrent, en fait.
Ouais.
Et comme ce bus est là, on va même pas se poser la question, on pourrait faire autrement et à vélo, ça pourrait être chouette.
Ouais. Et il y a un autre point intéressant que je peux lire dans le résumé que j'ai lu. Vous dites qu'ils apprennent majoritairement à faire du vélo pendant l'enfance. Presque 50% n'en fait plus à 18 ans. Mmh. Est-ce que vous faites les mêmes constats? Alors, ce que vous me disiez un peu, c'est que vous n'avez pas forcément fait une étude comparative par territoire, mais est-ce que vous faites les mêmes constats en fonction de la nature du territoire étudié, urbain, périurbain et rural?
Oui, alors, que j'ai observé, c'est qu'on a presque la totalité des jeunes, 98%, qui ont appris à faire du vélo. On voit vraiment que...
98, c'est 98 pour les Français.
98% ouais. des enfants qui ont appris à faire du vélo pendant l'enfance. Donc, c'est vraiment un rite de passage très important dans l'enfance.
Ouais.
Et puis, petit à petit, ils vont l'abandonner. Et là, on a quand même... Alors, on a autant des jeunes dans le périurbain, de la campagne, qui vont garder le vélo pour un usage récréatif,
ouais.
alors que des jeunes domiciliés plutôt au centre-ville ou bien dans les communes proches du centre vont le garder pour un usage peut-être un peu plus utilitaire.
Ouais.
Mais donc, indépendamment du territoire, il y a cet abandon qui s'observe.
Je me pose une question, et alors je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, mais ça fait un moment que je me la pose. Quand on parle de usage récréatif ou loisir, prendre son vélo pour le week-end pour aller voir ses potes ou pour aller au basket ou pour aller, j'en sais rien. Est-ce que pour vous, c'est calculé comme un usage récréatif ou comme un usage utilitaire ?
Non, là, c'est vraiment un usage utilitaire parce qu'on prend le vélo pour se déplacer.
98% des jeunes apprennent à faire du vélo. Ils ne sont plus que 50% à 18 ans. C'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure quand vous avez 16 ans et finalement vous abandonnez le vélo pendant 4 ans. Est-ce que le vélo, vous avez cette conclusion, est-ce que vous avez des pistes là-dessus quand on a 16, 17, 18 ans? Est-ce que le vélo, il a abandonné parce que bah, tout d'un coup, il est perçu un peu comme ringard, comme si c'était un objet d'enfance et quand on passe à l'âge adulte, il faut le mettre de côté pour comme une sorte de rite de passage?
Oui, il y a un peu de ça. Alors, globalement, les jeunes ont une image très positive du vélo.
Ouais.
Ils sont voilà, 84% à dire que le vélo est cool ou plutôt cool.
Ouais.
Ça, c'est plutôt
c'est
positif.
Top.
Et donc, on peut retravailler là-dessus. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a une image positive, mais qu'il est difficile à s'approprier le vélo comme moyen de déplacement pour soi.
Ouais.
C'est cool, c'est écologique, c'est pratique. Les jeunes mettent vraiment des adjectifs très intéressants en avant, mais pas pour leur propre pratique. Et ce qu'on remarque, donc ils vont abandonner le vélo, ben c'est souvent par des problèmes d'un vélo qui est devenu trop petit, qui ne va pas être renouvelé ou bien qui ne voilà, qui fonctionnait plus et qu'on ne répare plus parce qu'il n'y avait plus besoin. Et donc c'est à ces moments-là qu'il faut peut-être renforcer aussi cette image. Mais il y a aussi un moment charnière quand on arrive à l'école secondaire, donc c'était vers 13, 14 ans, 12, 13 ans, par là autour, ouais. que les jeunes me disaient, ben en fait, là, il fallait laisser le vélo parce qu'on ne pouvait plus faire les gamins, on devenait grand. Et donc, c'était vraiment le vélo qui était dans les plus jeunes années associé à une pratique ludique.
Ouais.
On se retrouve avec les copains pour s'amuser, pour faire des tours, faire la course. Et cette pratique-là doit être abandonnée. Et donc là, c'est tout l'enjeu de comment on fait pour développer cette trajectoire cycliste après cette pratique ludique pour montrer que le vélo bah, peut être utilisé pour des loisirs, mais aussi surtout pour des déplacements.
Ouais, mais c'est hyper intéressant ce propos-là. C'est-à-dire que c'est, en fait, il faudra réussir à le faire passer de ludique, donc d'un jeu, à une, pourquoi pas, une activité physique et ensuite une activité utilitaire.
Tout à fait, tout ouais. à fait. Et c'est là qu'on a des grands enjeux parce que, eh ben, cette pratique ludique, elle était peut-être quand on est dans des espaces très défini comme un parc urbain ou bien une cour d'immeuble pour les enfants en milieu urbain ou bien à l'échelle du village pour les enfants en milieu rural. Et du coup, on est dans un espace sécurisé. Et pour utiliser le vélo pour se déplacer, bah, il faut apprendre la nouvelle compétence, savoir se déplacer dans le trafic, être capable d'indiquer sa direction en tenant en équilibre, pouvoir s'orienter, etc. Donc, c'est vraiment toutes des compétences en plus qui ne sont pas forcément acquises auparavant.
Oui. Et puis, il y a aussi ce que vous disiez avant, c'est-à-dire qu'on abandonne aussi le vélo parce qu'il est devenu trop petit, parce qu'il ne fonctionne plus, parce qu'il n'est pas forcément entretenu comme il faut. Et là, tout d'un coup, bah, il y a une certaine responsabilité, probablement des parents. C'est-à-dire que, enfin, j'imagine qu'il y a une responsabilité des parents. C'est ce que vous dites et c'est ce qu'on peut lire en tout cas, l'une de vos hypothèses serait la non-possession d'un vélo. Ils sont 87% à en avoir un quand ils ont 12, 13 ans et un quart à ne plus en avoir un quand ils ont 19, 20 ans.
Oui, tout à fait. Donc, on voit vraiment qu'en fait, un des facteurs les plus déterminants pour savoir si les jeunes sont cyclistes ou non, c'est la pratique du vélo des parents.
Oui.
Et si les parents ne font pas de vélo, il y a de fortes probabilités, toute chose égale par ailleurs, que les jeunes ne fassent pas de vélo.
D'accord. On est à la mi-temps de Rayon Libre. On va se faire une petite pause musicale, si vous voulez bien, Aurélie Schlassmann. Pour donner envie à nos ados de pédaler, je les invite à écouter Juliette Armanet avec ce titre qui s'appelle Fuguer. Parce que oui, le vélo permet de fuguer. Mais les enfants partaient ni trop loin, ni trop longtemps, parce que papa et maman, ils vont s'inquiéter. En attendant, on écoute Juliette Armanet et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Fuguer, Faire le pas de deux, le pas de côté. Cœur et poing levé, partir en fumée. Foncer, t'aimer. Oh, fuguer. Le ruban perdu, les cheveux défaits. Brûler tous les feux aussi, tu savais. Ouais. Fuguer. Malgré tout, malgré les points de côté. S'envoyer valser pour un seul baiser. Sur ton étoile filée, sur mes pieds danser. T'aimer, 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 t'aimer. Oh, fuguer. Le ruban, je veux plus jamais le dénouer. Perdu et perdu, je m'en fous, j'ai signé. Fuguer. Toi et moi, tu sais, c'est pas du chiquet. Tu jamais vu, jamais, oh, je le sais.
Nous voilà de retour. Fuguez, partez, explorez, découvrez le rythme du vélo. C'est parfait pour faire tout cela. Vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes avec Aurélie Schmassmann, docteur en urbanisme et à l'Université de Lausanne, l'UNIL. Aurélie, on va faire un énorme bond dans votre thèse du pourquoi on passe directement aux grandes conclusions. Là, en première partie, on a posé un peu les grandes lignes des constats que vous avez faits. J'ai envie là d'aller plutôt sur les grandes conclusions ou les grandes hypothèses que vous émettez. D'abord, est-ce qu'on peut raisonner selon vous, Aurélie Schmassmann, globalement, c'est-à-dire qu'en dépit des sociotypes, des niveaux d'éducation, de l'environnement géographique et même de l'aménagement du territoire, est-ce qu'on peut tirer des grandes conclusions et proposer, je dirais, des solutions globales?
Oui, alors moi, je vois un peu quatre mécanismes qui permettent d'expliquer ces évolutions à la pratique du vélo au cours de la jeunesse, qui peuvent être transposés à plus ou moins à tous les territoires. Tout ça, c'est vraiment des éléments un peu qu'on va tous traverser. On aura tout d'abord des mécanismes d'ordre individuel, avec un vélo qui peut être utilisé comme un premier outil d'autonomie et qui va être concurrencé dans la jeunesse, comme je le disais, avec les transports publics, oui, et avec un accès à la mobilité motorisée qui se renforce. On a différents permis qui arrivent. Et ça, c'est vraiment des étapes qui restent encore très importantes pour les jeunes, un peu comme des outils qu'il faut avoir dans son portefeuille de mobilité. Ensuite, un deuxième élément, c'est tous ces facteurs socio-familiaux. Donc, je disais que la pratique du vélo des parents va être très déterminante, oui, mais on a aussi la pratique, les pratiques de mobilité des amis. Oui. On voit vraiment à quel point, les pratiques de mobilité qui vont être définies, discutées dans la sphère familiale, vont être confrontées avec le cercle social, qui est vraiment un marqueur d'appartenance. Et oui, les jeunes vont préférer abandonner le vélo pour pouvoir se déplacer en bus ou à pied avec les amis. Et donc, cet aspect de faire ensemble, il est vraiment primordial sur le moyen de déplacement.
Oui, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, c'est ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a un côté un peu social. Finalement, le vélo, c'est le seul moyen de déplacement qui n'est pas si social que ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de se déplacer l'un derrière l'autre parce qu'il faut faire de la place. Quand dans les transports en commun, ou même, comme je l'ai évoqué en introduction, ils ont tous un smartphone, pour être avec les autres et pour pouvoir discuter, rien de mieux que les transports en commun, ou la marche à pied, ou la voiture, où là, on peut discuter et être tous ensemble.
Tout à fait, vraiment. Et pour les jeunes, c'est très, très important d'être ensemble avant et d'être ensemble après les cours pour pouvoir encore échanger, passer. Enfin, voilà, c'est vraiment des moments qui sont très, très importants dans la jeunesse. Et donc, c'est là qu'on peut faire le lien avec le troisième élément pour moi qui est le territoire. C'est qu'on n'a pas un territoire qui est adapté pour permettre de rouler, comme vous l'avez dit, côte à côte et de rendre la pratique du vélo à un moment social, un moment convivial. Et donc, ce territoire, est lacunaire déjà pour ça, mais aussi qu'il n'est pas assez sécurisé de manière générale. J'observe un double discours un peu à la fois des parents qui se disent très inquiets, qui ne peuvent pas laisser leurs enfants se déplacer à vélo pour des questions de sécurité, mais des jeunes qui sont aussi eux-mêmes très critiques, où ils parlent et mentionnent des altercations qu'ils ont eues avec les voitures, ou bien qu'ils ont peur de déranger aussi. On a encore cet aspect de voilà, de place de la voiture, qu'elle doit être légitime dans l'espace public. On parle de motonormativité. De motonormativité.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment que la voiture est légitime, elle a sa place.
Ouais.
Et nous, en tant que cyclistes, eh ben, on est secondaire. Donc,
ouais,
ces jeunes vont se faire tout petits et ne pas, voilà, cette place ne lui aurait pas donnée, elle n'est pas donnée aux cyclistes de manière générale.
Mais là, il y a aussi un comportement, entre guillemets, et on le voit au quotidien aussi, même sur une piste cyclable sécurisée, large, etc. On le voit bien, il y a ceux qui sont là sur la piste cyclable pour se déplacer, pour aller, parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils vont au bureau, parce qu'ils font du sport. Et au fait, on a du mal à cohabiter quand on est un cycliste, quand on est dans une optique de déplacement ou de sport, on a du mal à cohabiter avec ceux qui flânent et qui discutent.
Oui. Oui, alors, enfin, c'est vrai que plus on aura des aménagements larges qui permettent le dépassement aussi, plus ça sera possible. Et c'est aussi de réfléchir en réseau, en fait, d'avoir vraiment un réseau pour les déplacements, pour, voilà, où on a un réseau pour le vélo efficace, qui va être concurrentiel aux autres modes de déplacement. Et puis après, ben voilà, on peut trouver des itinéraires de loisirs, des choses, voilà, plus pour la balade.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous dites, c'est que plus dans la famille, plus les parents pédaleront et plus ils encourageront leurs ados à pédaler et plus les ados finalement pédaleront. Vous avez mené des entretiens avec des parents?
Oui, alors pas beaucoup. C'était difficile de recruter les parents via les jeunes, mais j'ai pu échanger avec une dizaine de parents.
Oui.
Qui étaient, voilà, même cyclistes ou non cyclistes. Et c'était intéressant de voir un peu les dynamiques qui se passaient au sein du ménage en termes de mobilité.
Oui. Quand vous discutez avec les parents, si les parents, ils ont une responsabilité, alors elle n'est pas forcément totale, mais on peut imaginer qu'elle n'est pas totale. Néanmoins, s'ils en ont une, ce serait selon vous laquelle? Parce que, bah, en gros, on est aussi des exemples, nous, parents, vis-à-vis de nos enfants.
Oui, tout à fait. Non. En termes de responsabilité, je n'ai pas envie de dire à tous les parents, en fait, et encourager. Enfin, voilà, mais c'était plus d'avoir cette discussion, en fait, aussi de... Et puis peut-être, ben voilà, si un enfant est intéressé à faire du vélo, ou bien voilà, de s'intéresser aux possibilités que l'enfant a, et puis de l'encourager, de l'accompagner. Il y a des cours vélo, il y a là des parents que j'ai rencontrés, certains sont allés, eux, avec leur enfant, faire des cours vélo pour comprendre, ben voilà, comment j'accompagne mon enfant à vélo dans le trafic, et puis aussi, moi, en tant que parent, comment je me positionne, comment je dois faire, donc aussi de faire un peu une petite actualisation, certains parents me disaient, par rapport à ses compétences. Donc, c'est vraiment d'accompagner, et puis voilà, de proposer aussi des solutions différentes que de tout de suite se replier sur la voiture et d'emmener son enfant partout, de le véhiculer partout, qui va générer des gros problèmes d'engorgement aussi aux abords des écoles ou bien
J'ai une question qui me vient là, avec l'âge, en tout cas ceux qui continuent à faire du vélo, il y a un allongement des distances et des destinations qui sont différentes. C'est-à-dire que là, typiquement, quand on a 11, 12, 13 ans, on va retrouver nos copains pour aller pédaler dans le coin et puis pour finalement, pourquoi pas se poser dans le centre urbain. Est-ce que quand l'ado devient plus grand et qu'il continue à pédaler, il y a une notion de il va plus loin, il part à l'aventure, un peu comme s'il partait en randonnée ou pas plus que ça?
Alors, pas vraiment. C'est plutôt quelque chose qui va freiner les jeunes à utiliser le vélo. Parce que, bah, voilà, notamment pour leur lieu de formation, ils sont vraiment confrontés à un allongement des distances.
Ouais.
Aussi à un changement de rythme de vie. Ça, faut le prendre en compte. Que des jeunes, bah, ils ont, voilà, un emploi du temps très chargé, beaucoup de révisions à faire. Et du coup, ça va être difficile de se déplacer à vélo pour ces trajets-là. Mais le vélo est quand même a été là souvent. Enfin, il y a très peu de jeunes qui n'ont pas du tout utilisé le vélo pour se déplacer à un moment donné dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Et donc, on voit que c'est pas un rejet total du vélo. En fait, c'est plus une concurrence de différents modes en fonction des lieux de vie, des situations, des possibilités. Et donc, il y a une opportunité d'ancrer le vélo pour d'autres pratiques aussi. Ça peut être utiliser le vélo pour retrouver les copains qui sont pas très loin, ou pour aller faire une petite course, ou pour se retrouver en ville, etc.
Oui, et c'est ce que vous disiez aussi en première partie d'émission, c'est que les réponses que les ados vous donnent à propos du vélo, ils disent que c'est cool, pas forcément pour eux, mais en tout cas c'est un objet qui est cool.
Donc on peut vraiment travailler là-dessus, sur cette base, c'est cool, et donc c'est pas forcément pour des déplacements hyper longs, mais c'est de le reprendre pour certains éléments, et puis de
On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim et on retrouve Aurélie Schmassmann juste après pour une dernière question. Aurélie, vous avez donc 3 minutes pour y réfléchir pendant la chronique d'Abel, même si c'est bien d'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. J'ai envie de vous poser la question, une mesure, une seule, qu'on peut mettre en place là, rapidement, partout en Suisse et en France, pour que nos ados y pédalent. Selon vous, ce serait laquelle? Mais avant que vous répondiez, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune, 93.fm, et c'est le moment d'Abel Guggenheim, donc Abel, on t'écoute.
Bonjour. Cette chronique, enregistrée le 22 juillet 2025, devrait en principe être diffusée le 25 août, peu avant le moment donc où démarrera l'année qu'on dit généralement scolaire, mais qu'on pourrait tout aussi bien nommer l'année laborieuse, ou l'année citoyenne, ou l'année associative, ou même l'année radiophonique. C'est le moment de revenir en arrière et de faire un peu d'histoire. Lorsqu'en 1996, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Vaquin, membre du cabinet de Jean Dibéry, décédé il y a quelques semaines, la ville de Paris a commencé à s'intéresser sérieusement au vélo comme mode de déplacement, les ingénieurs de la direction de la voirie et des déplacements, la DVD, n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il convenait de faire. Je me souviens très bien de cette réunion en février 1996, où Jean Tibéry annonça le premier plan vélo pour Paris. Nous étions plusieurs associations de cyclistes et proches à avoir été invités à cette réunion, et nous étions côte à côte d'un côté d'une grande table. Le maire était de l'autre côté, au milieu, avec à ses côtés les responsables de la DVD, mais aussi plusieurs hauts fonctionnaires d'autres directions. Du beau monde, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'en nous annonçant ces projets, Jean Tibéry s'adressait au moins autant à ceux qui l'entouraient qu'à nous pour leur faire part d'une orientation importante qui, on peut le rappeler, ne figurait pas dans son programme et n'était sans doute pas une demande de la majorité de ses électeurs et électrices. Et à partir de ce moment-là, nous avons travaillé avec ces ingénieurs. Chacun à sa place, nous avec l'expression de nos besoins, notre expérience de ce que nous avions pu voir ailleurs, eux avec leur technicité tournée vers l'automobile, mais aussi avec le message politique impératif d'acquérir rapidement le même niveau pour le vélo. Nous avons persuadé la ville d'adhérer au club des villes cyclables, ce qui a permis aux services techniques parisiens d'entrer en contact avec celles d'autres villes plus avancées. Les choses ont avancé depuis, j'aurai sans doute l'occasion d'en parler à ce micro et peut-être ailleurs. Les connaissances de la voirie parisienne se sont affinées. Faisons un saut dans le temps. En mars 2018 est créée la MACI, Mission Aménagement Cyclable, devenue depuis la Mission Vélo, au sein de la Direction de la Voirie et des Déplacements, pour encore améliorer la compétence en aménagement cyclable. On en confie la direction à une jeune ingénieure, cycliste quotidienne, Charlotte Gutt. Je l'interviewais à ce micro dans le numéro 58 de Rayon Libre, en octobre 2019. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Charlotte vient de quitter son poste, après un peu plus d'un septennat, et parce que je tenais à lui rendre hommage pour avoir travaillé dans des conditions difficiles, pas toujours libre de tous ses choix. Si on parle d'une femme qui a eu un rôle essentiel pour la place du vélo comme mode de déplacement à Paris, beaucoup citeront, à juste titre, Anne Hidalgo, je placerai personnellement en numéro 1 Charlotte Gutt. La question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Créer une mission spécialisée pour les aménagements cyclables était certainement le bon choix lorsqu'il a été fait en 2018. Je ne suis pas certain que ce soit toujours vrai aujourd'hui. À lundi prochain.
C'était Abel Guggenheim. Merci Abel. Donc Aurélie Schmassmann, une mesure, une seule, qu'on pourrait mettre en place là, rapidement, partout en Suisse, et pourquoi pas en France et en Belgique et ailleurs, selon vous, pour que nos ados y pédalent, ce serait laquelle?
Alors, en choisir une seule, c'est compliqué.
Mais oui.
Voilà. Mais alors, il y en a plusieurs. Pour moi, j'ai dit qu'il y avait une diminution de la possession de vélo. Donc déjà ça, de pouvoir renforcer l'accès au vélo, d'assurer. Voilà. Ça peut être vraiment une possibilité facile à mettre en place, de proposer des vélos, que ce soit par des subventions, proposer des ateliers de réparation vélo pour les jeunes, par les jeunes, mais aussi de proposer proposer aux jeunes de tester le vélo, parce que voilà, ils ont l'image cool du vélo, c'est cool, mais pas pour moi, parce que si ça. Et en fait, de tester le vélo peut-être sur quelques jours, voilà, ou quelques semaines, les premiers jours, ça sera difficile, et petit à petit, on voit que le corps s'habitue, ça devient plus facile, et on prend énormément de plaisir. Donc ça serait vraiment des actions rapides et faciles à faire.
Merci beaucoup Aurélie Schmassmann. Donc votre thèse, à un moment donné, on pourra la lire, votre thèse ou pas?
Elle est publiée, elle est terminée. Là, j'ai défendu il y a 2 semaines.
Eh bien donc, je vous invite à m'envoyer un lien, comme ça on le mettra sur la fiche de l'émission pour que nos auditeurs auditrices puissent se plonger dans votre thèse. Auditeurs auditrices, ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, hein, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et pendant ce temps de vacances estivales, je crois que le mieux que vous puissiez faire, c'est d'offrir un moment à vélo à vos enfants, à vos ados, à vos neveux et à vos nièces. Ils apprécieront et même qu'ils vous trouveront cool. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.